Qu'est-ce que l'espérance ? A priori, on aime bien, ça sonne comme quelque chose de positif, mais de quoi s'agit-il exactement ? Et j'avoue que depuis 35 ans que je suis pasteur, j'ai toujours été un peu embarrassé pour être capable d'expliquer exactement de quoi il s'agit. On connaît les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et l'amour. Parfait. La foi, on en a beaucoup parlé, je vois à peu près ce que c'est. L'amour, je crois comprendre aussi. Mais l'espérance, alors on a l'habitude de dire que l'espérance doit se distinguer de l'espoir. Et bon, ça je peux le dire, on va voir. Alors selon une bonne démarche protestante, je me suis dit, pour savoir ce qu'est l'espérance, c'est simple. Je vais prendre ma Bible et essayer de trouver où, dans l'Écriture, il est question d'espérance. Et là, j'ai fait une découverte étonnante, c'est que le mot « espérance », « helpis » en grec, est absent de l'évangile de Matthieu, absent de l'évangile de Marc, absent de l'évangile de Luc et absent de l'évangile de Jean. Le mot « espérance » est absent de tous les évangiles. Quant au mot « espérer », le verbe « espérer », « helpisein », on le trouve à peu près une fois par évangile, souvent dans le sens de « j'espérais que ça, les choses s'arrangent ». Et en fait, on ne trouve l'espérance et espérer vraiment que dans les lettres de Paul. C'est-à-dire que l'espérance est un concept qui a été développé tardivement, essentiellement par Paul, et ce n'est pas le thème de la prédication du Christ. Donc voilà, mon sermon est terminé, pourrais-je dire. Il n'y a pas d'espérance dans l'Évangile, donc on pourrait s'arrêter là. Mais vous seriez déçus, alors je vais quand même faire un petit effort en disant que même si le mot espérance n'est pas dans l'Évangile, néanmoins je crois que c'est une notion tout à fait évangélique. Et il faut juste arriver à comprendre, de savoir de quoi l'on parle. Ce qui m'a mis dans le sens de cette réflexion, c'est que, bizarrement, il y a deux livres qui sont sortis là récemment dans les jours qui précèdent, deux livres écrits par deux grands rabbins en France, tous les deux de dénominations différentes, et l'un a appelé son livre « L'espérance est violente » et l'autre a appelé son livre « Devoir d'espérance ». Donc deux rabbins sortent en même temps un livre sans se concerter et les deux parlent d'espérance. L'un, l'espérance est violente, l'autre, devoir d'espérance. Et donc c'est un sujet important apparemment. Mais ce qui m'a fait réfléchir, c'est que dans les deux cas, dans ces deux titres de livres, l'espérance est liée à quelque chose qui est de l'ordre de la dureté, de la violence et du devoir. Et ça m'a incité à comprendre en quoi je crois. C'est qu'en fait, je n'aurais jamais publié un livre sous ce titre-là. Parce que j'aurais plutôt dit moi-même, non pas que l'espérance est violente, ni de l'ordre du devoir, mais j'aurais dit, le monde est violent. Et le monde nous impose sans cesse des devoirs. Mais justement, moi, mon espérance, c'est qu'il y a de la bonté possible, qu'il y a de la douceur possible, qu'il y a de la tendresse possible. Et de croire que le sens de ma vie n'est pas tant dans le devoir permanent, mais au contraire, dans la gratuité, dans la grâce, dans le don et dans la reconnaissance. Et peut-être du coup, grâce à ces deux ouvrages, j'ai compris que ce qu'est pour moi, en tout cas pour vous, ce sera ce que vous voudrez, mais ce qu'est pour moi l'espérance, c'est justement de croire dans la bonté, de désirer ardemment tout cela et de se dire, c'est là-dessus que moi je veux construire ma vie, c'est cela que j'attends, c'est cela que j'espère, c'est pour cela que je vis et que je veux vivre et c'est vers cela que je veux tendre de tout mon cœur. Et est-ce même un devoir? Non, c'est même pas un devoir l'espérance, je ne suis pas sûr, hein, parce que l'espérance n'est pas notre œuvre et toutes ces choses douces que j'attends tellement, je ne prétends pas que c'est moi qui vais les créer, mais Simplement, je les attends comme un don, comme quelque chose que l'on peut recevoir, et que l'espérance, ce n'est pas de se retrousser les manches pour essayer de créer un monde meilleur, mais c'est simplement d'être capable de s'ouvrir à quelque chose qui me dépasse, de s'ouvrir à un amour qui est plus grand que moi. Donc finalement, je dirais que l'espérance peut-être est cela, c'est dans le fond croire dans l'avenir, croire dans l'avenir. Et ça n'est pas évident, parce que les médias et autre chose passent leur temps à nous montrer que l'avenir est sombre. De toute façon, l'avenir est sombre, oui. Vous tomberez malade, vous mourrez, voilà. Agréable, hein ? Et en fait, l'espérance, c'est justement s'opposer à cela. Il y a une forme de folie là-dedans, de dire, eh bien, je crois qu'il y a une vie possible, il y a un amour possible, il y a de la joie possible. Et donc l'espérance, ce n'est pas de la raison, mais c'est une forme de folie. Et c'est ce que dit Paul dans 1 Corinthiens, au début, premier chapitre, où Paul parle de la folie de la croix. Et ça m'intéresse beaucoup aussi. Il dit en fait, les sages, les philosophes, les intellectuels sont tous dans la rationalité, et il dit, il y a dans la croix du Christ quelque chose de l'ordre de la folie, quelque chose d'incompréhensible. Et en fait, pour moi, oui, l'espérance est une forme de folie. Et cette folie, c'est peut-être, alors là, c'est une vraie déclaration de foi, justement ce qui me donne la foi dans l'histoire du Christ, de sa mort et de sa résurrection, ou qu'elle soit spirituelle ou matérielle comme vous voudrez, mais en tout cas, l'histoire du Christ est une histoire extraordinaire où rien ne se passe comme ça aurait dû. Jésus arrive pour dire aux gens « aimez-vous les uns les autres ». Il se trouve en butte à de la jalousie, de la violence, de la haine. Encore ça, on pouvait le prévoir, mais ce n'est pas une réussite. Et échec de sa mission totale, au lieu d'être écouté, les gens le prennent, le torturent et le tuent. Fin de l'histoire. Et non, pas fin de l'histoire, justement. Bien qu'ils aient réussi à stopper le Christ, à tout arrêter et à disperser les disciples, voilà que, quelque temps après, le message du Christ propage comme une traînée de poudre dans tout le bassin méditerranéen. Et voilà que 2000 ans après, ce message fait vivre des milliards de personnes. Et ça, c'est un inattendu total, et c'est ça la résurrection du Christ peut-être. C'est que la mort de Jésus n'a rien empêché, et qu'il s'est passé quelque chose d'incompréhensible, un renversement de situation totale, qui fait que de cette situation d'échec et de mort, surgit un message de vie et quelque chose d'extraordinaire. Et que du coup, la croix, signe de torture et de mort, devient signe d'espérance. Enfin, c'est de la folie, ça. C'est de la folie. Personne n'aurait misé un centime sur la postérité du message du Christ au moment de la crucifixion. C'était imprévisible. Et cela nous montre que même au plus bas du bas et au plus fond du fond, la vie peut surgir de manière inattendue et tout peut changer. Et donc voilà ce que je voulais dire. C'est que même si le mot « espérance » n'est pas dans l'Évangile, tout l'Évangile n'est rien d'autre qu'un message d'espérance. Parce que l'espérance, c'est justement se libérer des déterminismes et se considérer comme étant libre de toutes les prévisions maussades. En effet, je parlais tout à l'heure de violence. La violence, elle n'est pas dans l'espérance. La violence, elle est dans le cours inéluctable du monde, où les prévisionnistes et autres nous enferment dans des conséquences et dans une sorte de prévision d'avenir dramatique. Et l'espérance, c'est la folie de dire « Eh bien, je crois que les choses n'arrivent pas toujours comme on les a prévues. » Et il se passe sans cesse dans le monde et dans nos vies des choses totalement incroyables, imprévisibles. Et dans le monde, tout est toujours possible. et il y a toujours des retournements et des situations possibles. Et donc quand tous les prévisionnistes nous disent que ça va mal et qu'on est fichu, que la France n'est plus rien, que l'économie va à sa catastrophe et le climat n'en parlons pas, quand tous les marqueurs sont au pire, eh bien l'espérance c'est de sortir de ce piège infernal et de dire, eh bien moi, malgré tout ce que vous dites, je n'en sais rien, je sais que l'avenir de toute façon ne sera pas ce qu'on prédit et que de toute manière il y aura toujours de la vie possible, de la joie possible, du bonheur possible, de l'enthousiasme possible et de l'amour possible. Et c'est bien ce que dit Paul justement toujours dans son épître aux Romains au chapitre 4, quand il dit « espérant contre toute espérance ». Espérer contre toute espérance. C'est ça, même si cela semble incroyable, j'espère quand même. Alors cela dit, ce que je dis n'est pas un optimisme béat. Et je ne veux pas dire que les prévisionnistes ont toujours tort, parce que, je l'ai dit au départ, l'espérance n'est pas du même ordre que l'espoir. Et je ne veux pas juste dire, n'ayez pas peur de ceux qui vous annoncent ci ou cela, parce que ça n'arrivera pas, peut-être que ça arrivera quand même. Ce n'est pas la question. Mais l'espérance n'est pas de l'ordre de l'espoir, et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'espoir, il est ciblé et défini. Par exemple, je dis, j'espère qu'il fera beau demain parce que j'ai invité mes amis à une garden party. Peut-être qu'il fera beau, peut-être qu'il ne fera pas beau. Et donc cet espoir a une chance sur, mettons, deux, d'être satisfait. L'espérance n'est pas ciblée sur quelque chose de défini et de précis. L'espérance, c'est une ouverture que quelque chose de positif sera possible. Je ne sais pas encore quoi, et je ne sais pas sous quelle forme, peut-être même certainement sous une forme que je n'imagine pas, mais l'espérance est de se dire, quoi qu'il arrive, je ne serai pas face à un mur, mais il y a une ouverture qui fera que la vie sera possible, que la joie sera possible et l'amour sera possible. Et donc mon espérance est de dire, je reprends mon exemple un peu trivial de ma garden party, de se dire, mon espérance c'est que, même s'il pleut, je sais qu'on passera un moment formidable. Et donc de ne pas limiter l'option de vie à une option qui est la mienne, mais d'être ouverte sur d'autres choses, parce que il y a des tas de solutions possibles à la vie, et l'espérance est justement l'ouverture sur un possible que je ne suis pas encore capable de déterminer. Et donc, voyez, la vie ne nous met pas sans cesse face à des sortes de bifurcations avec d'un côté le bien, de l'autre côté le mal, la bonne voie et la mauvaise voie, en espérant que ce soit la bonne voie qui soit prise. Mais en fait, l'espérance, c'est de se dire, je crois que des deux côtés, ce chemin peut mener à la vie. C'est encore ce que dit Paul, qui est donc le champion de l'espérance, vous l'avez compris, quand il dit... Toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Il ne faudrait pas l'entendre comme une sorte de superstition, en disant « si vous êtes fidèle à Dieu, vous n'aurez que des chances dans la vie ». Non, c'est que si vous êtes dans une quête au-delà de ce que vous êtes vous-même, de votre matérialisme ou égoïsme ambiant, si vous êtes dans une quête de l'autre, de l'invisible, de l'éternel, quoi qu'il arrive, ça pourra coopérer au bien, c'est-à-dire qu'il y aura là un chemin de vie possible. Et donc voilà, peut-être l'espérance, c'est une confiance dans la vie et dans l'avenir. Le mal n'est pas tout puissant, la violence non plus. Et le Christ lui-même, je vous l'ai dit, nous a prouvé que la douceur et la paix, pouvaient être victorieux de la violence, de la jalousie et de la haine. Et le Christ a vaincu la violence sans aucune violence. Dans la langue de la Bible, J'ai cherché un peu en amont du Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Il y a un seul mot pour dire espérer et avoir confiance en. C'est-à-dire que l'espérance et la confiance, dans hébreu, c'est le même mot. Et donc l'espérance, c'est sans doute garder confiance qu'il y a un avenir possible. Quel sera cet avenir? Je n'en sais rien. Mais je crois et j'espère qu'il y a un avenir possible. Et pour qu'il soit possible, il faut que moi je sois capable de l'accueillir, de le reconnaître. Si je suis figé sur une seule solution possible dans ma vie, je passerai à côté de tout ce qui m'a été, tout ce qui me sera offert par Dieu. Et donc peut-être que la première qualité de l'espérance, c'est la disponibilité, c'est l'écoute et c'est la capacité d'adaptation. Alors bien sûr, il faut faire des projets, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais il ne faut pas être esclave de ces projets. Il faut être capable de renoncer à soi-même et non pas de dire « j'irai là et nulle part ailleurs », mais de dire, comme on disait autrefois, lisaient les bons croyants, « j'irai là où Dieu me mènera et là où il me fera être, là je serai bien ». Et donc être à l'écoute, être disponible de ce qui se passe, être prêt à embrayer le cours d'une histoire plus maligne que moi, c'est vrai pour tout, pour notre vie individuelle, c'est vrai aussi pour l'avenir de nos entreprises. Quelqu'un m'interrogeait une fois sur l'avenir de l'Église, est-ce qu'il y a une espérance pour l'Église chrétienne dans les temps à venir? Je dis oui, à condition qu'elle ne s'enferme pas dans, je dirais, dans des dogmes, dans des pratiques, dans des choses fermées, mais qu'elle soit capable de s'ouvrir, d'écouter. Parce que moi je fais des projets, mais Dieu a peut-être d'autres projets où la vie me mènera ailleurs que dans ce qu'étaient mes projets. Et ma vie va passer par des chemins que j'ignore et pour lesquels je n'ai aucune idée encore actuellement. Et je ne pourrai les vivre que si je sais m'adapter et me réinventer. On dit que le propre de Dieu est d'être créateur, et c'est ce que je crois. Créateur, ça veut dire apporter du neuf. Or, notre monde ne fait pas que de s'user ou de se dégrader. Il y a sans cesse dans notre monde du nouveau qui surgit, de la création qui arrive par le cours des choses ou par l'activité humaine. Et donc on parle sans cesse dans notre société, même en France, de crise, comme si tout allait tout le temps à volo. Mais en fait, les inventions, les créations, les opportunités, même dans la société matérielle, depuis 20 ans, mais c'est incroyable, incroyable. Et même si on parle de fortune, le nombre de gens qui aujourd'hui font fortune, mais c'est dingue. Et donc en fait, il y a sans arrêt de l'invention, de la nouveauté. Et quand on dit que Dieu est créateur, c'est ça. C'est qu'il y a sans cesse dans le monde de la créativité. Et peut-être que d'être fidèle à Dieu, c'est d'être capable de s'accrocher à ce qui est de l'ordre de la création et du nouveau. Alors nous, nous détestons le changement, bien sûr. On voudrait que tout reste comme c'est. Or, la vie n'est que changement. Et toute notre vie n'est que changement. Notre tendance, c'est de regretter le passé, de dire qu'on voudrait que tout reste comme avant, mais en fait, de toute façon, tout change et tout doit changer. La solution d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, ni celle de demain d'être comme aujourd'hui. L'avenir est imprévisible, la bonne solution de demain est inimaginable. Celui qui sera heureux, c'est celui qui saura s'adapter, sauter sur l'occasion, prendre le bon virage. C'est vrai pour l'économie, vous disais-je, c'est vrai aussi pour notre vie. Et donc l'espérance, c'est une qualité essentielle pour vivre, et effectivement fondamentale. Il y a la foi qui est l'ancrage de ce que l'on croit vrai, essentiel, fondamental, nos valeurs, nos convictions. Il y a l'amour qui est ce que nous devons faire, et l'espérance qui est simplement le fait de pouvoir vivre et de ne pas être une pierre condamnée à rester là où elle est sans bouger. L'espérance est un chemin de vie, c'est la voie de la vie et c'est toujours l'ouverture. Et pour vivre de l'espérance, il faut être ouvert à l'espérance et à la créativité de la vie. Et puis je dirais que cette espérance est liée à une autre qualité essentielle et tellement évangélique, qualité que j'aime beaucoup, qui est la patience. La patience, ça, j'ai déjà prêché sur ce thème, c'est un mot que l'on trouve très souvent dans l'Écriture. Valeur évangélique essentielle, sous-estimée, mais tellement importante. La patience. Dans combien de situations, quand les gens se plaignent de ceci ou de cela, ou quoi qu'il se passe, j'ai envie de dire patience. La patience. Et pourquoi la patience est si importante? Parce que la patience, c'est précisément de ne pas s'enfermer dans le présent, mais d'avoir une disponibilité d'esprit, pensant que, même si aujourd'hui, bon, c'est pas terrible, la vie est possible, qu'il y a du bon possible, qu'il y a un avenir possible, et que devant nous, il y a quelque chose que je ne connais peut-être pas encore, mais qui vaut la peine d'attendre. Il y a dans la patience une forme de douceur qui me plaît aussi. Une douceur, aussi une forme d'acceptation de ce qui arrive en disant « bon, ça passera ». Mais pas de passivité, parce que dans la patience, il y a une attente positive, une aspiration vers un avenir positif. Et la patience, c'est pas juste de se limiter à ce que l'on est en train de vivre, mais d'être capable de se tourner vers un futur de vie et de dire « je crois, justement, que ma vie ne se limite pas à ce que je vis aujourd'hui, mais qu'il y a un bonheur possible, une vie possible, une joie possible, même si pour l'instant je ne la vois pas clairement. Mais patience, il y a devant quelque chose qui mérite que vous viviez aujourd'hui. » Donc oui, la patience, c'est une qualité essentielle pour vivre. La patience ne se fonde que sur l'espérance, et sans espérance, il n'y a pas de patience possible. Mais en même temps, je vais revenir sur la critique des livres de mes collègues juifs. L'espérance n'est finalement peut-être pas que douceur ou attente ou passivité. J'ai critiqué tout à l'heure ces deux ouvrages, « L'espérance est violente » ou « Devoir d'espérance ». J'aurais pas dit cela, je vous l'ai dit, l'espérance pour moi c'est la douceur, c'est... Le monde est violent, mais l'espérance, c'est qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la tendresse possible qui nous attend, nous accueille, qu'il y a un amour possible, une joie possible. Donc tout ça, c'est pas de la violence ni du devoir, mais pourtant, il y a quand même quelque chose de pas entièrement faux dans ce qu'ont dit mes collègues rabbins. C'est que l'espérance a quand même quelque chose de violent par rapport au matérialisme du monde. Pardon. Quand je parlais de la folie de la croix tout à l'heure, c'est un peu de cet ordre-là. L'espérance est une sorte d'acte de violence s'opposant au discours catastrophiste et démoralisateur ambiant. Et donc, oui, l'espérance, c'est même violer le cours du monde, dire non, il y a de la vie possible, j'y crois. C'est même parfois transgresser, je dirais, la morale bourgeoise, en quelque sorte, transgresser le bon sens, lutter contre les déterminismes. Et donc, il y a quelque chose de fort, de puissant, de transgressif, et même peut-être, oui, c'est vrai, de violent dans l'espérance. Mais de violent pas par rapport à soi, par rapport au monde matérialiste. Et puis, l'espérance est-elle un devoir? Comme disait cet autre livre, « Devoir d'espérance », je vous ai dit non, l'espérance est une grâce, c'est un bonheur, c'est la plus grande des douceurs. Mais pourtant, oui, il y a peut-être aussi une forme de devoir dans l'espérance, peut-être, parce que l'espérance ne va pas de soi. Peut-être y a-t-il une part de nécessité, d'acte de volonté. Oui, il y a certainement dans l'espérance, à un moment donné, un choix. Choix de ne pas se laisser aller, choix de regarder les choses du bon côté, et donc c'est un choix de vie. Je choisis d'espérer, point. C'est comme ça. Ça, c'est ce magnifique passage de Deutéronome 30, 15, hein, où Dieu dit, Jésus n'était pas là encore, Je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie afin que tu vives. Il y a quand même un choix à faire à un moment donné. Donc oui, il y a, peut-être pas un devoir, mais un acte de volonté. Et donc l'espérance pour moi, c'est dire oui, je crois dans la vie. Et cette espérance, ce n'est pas un vain espoir qui serait « espère toujours » ou « demain on rase gratis, demain ça ira mieux », etc. Mais je vous l'ai dit, en hébreu, il n'y a qu'un seul mot pour dire l'espérance et la confiance. Espérer, c'est mettre sa confiance en quelque chose. Et je crois finalement que espérer, c'est croire en quelque chose. La foi et l'espérance sont intimement liées, il n'est pas facile de les délimiter. C'est cette formule, du coup, un peu compliquée de l'Épître aux Hébreux qui, pour moi, c'est clair quand il définit la foi en disant « la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas ». Oui, on ne les voit pas parce que l'espérance est pour ce qui n'est pas là, mais la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. C'est-à-dire à un moment donné de se dire, non seulement je crois qu'il y a de la vie possible, mais je vais me construire là-dessus. Et la foi, c'est de donner cette assurance, c'est la dynamique de la foi. Et en même temps, ce n'est pas, je vous ai dit juste de laisser croire que peut-être les choses vont s'arranger magiquement. Parce que si je reprends ce thème d'espérance, d'espérer en, là où on le trouve le plus dans l'Ancien Testament, c'est dans les psaumes. Et du coup, là, les traductions hésitent. Certaines traductions disent « j'espère en Dieu », d'autres disent « je me confie en l'Éternel » ou « mets ta confiance en Dieu » ou « mets ton espérance en l'Éternel », comme c'est le même mieux, même mot, espérance et confiance, on trouve les deux. Mais c'est là peut-être aussi la clé essentielle, c'est que je ne voudrais pas faire un discours de bonimenteur en disant « vous êtes malade, mais ça va s'arranger, le climat se réchauffe, mais tout va s'arranger, l'économie est mauvaise, mais ça va s'arranger ». Je ne dis pas ça. L'espérance n'est pas simplement que tout peut s'arranger matériellement, mais c'est de croire que quelle que soit la situation, il va y avoir du positif d'un autre ordre qui arrive. J'espère en Dieu, je ne suis pas sûr d'espérer dans l'économie ou dans le climat. Mais j'espère en Dieu, oui, parce que l'essentiel est invisible pour les yeux, le plus important pour ma vie, ce n'est pas tellement mon économie ou mon climat, mais c'est mon être profond, ma façon d'être en relation avec les autres, et donc il y a en chacun de nous des trésors inestimables qui sont des trésors invisibles que le monde matériel auquel le monde matériel ne peut rien faire. Et c'est ça où le psaume peut-être nous donne la solution. C'est que moi, je mets mon espérance en Dieu. Alors, si vous croyez en Dieu, pas en Dieu, j'en sais rien, mais je dirais Dieu, c'est-à-dire dans l'invisible, dans la qualité, dans l'être même, et pas dans le matérialisme, si vous voulez, pas dans l'égoïsme, pas dans le pouvoir, pas dans la haine, pas dans la violence, mais je mets mon espérance dans tout ce qui fait la grandeur, la beauté de l'être humain et tout ce qui donne envie de vivre, quelle que soit la situation matérielle. C'est ça Dieu, c'est ce qui compte dans ma vie, l'invisible, l'éternel, le transcendant, le sublime. Et voilà en quoi j'espère. Il y a pour moi cette dimension transcendante à laquelle je suis appelé et qui m'est offerte. Et mon espérance est justement que ma vie ne se limite pas à ses fonctions biologiques, de toute façon à date de péremption, mais que ma vie est invitée à prendre une dimension éternelle qui est extraordinaire. C'est ce que dit Paul encore, spécialiste de l'espérance, vous l'avez compris, 1 Corinthiens 15, où Paul dit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Oui, nous n'espérons pas dans cette vie seulement, mais je crois moi en tout cas, qu'il y a dans la vie quelque chose de transcendant, d'ultime et de merveilleux qui donne envie de vivre. Et mon espérance, c'est que ma vie est justement accrochée à autre chose. Et si je reprends mes trois vertus théologales du début de 1 Corinthiens 13, la foi, l'espérance et l'amour. L'espérance est au milieu, vous voyez, et il y a entre les deux la foi, qui est cette conviction de savoir en quoi je crois. Est-ce que je crois dans ma richesse, dans mon monde matériel, dans ma santé? Et il y a l'amour, qui est ce à quoi je suis appelé et invité, et qui est le seul sens de la vie, aimer et être aimé. Et au milieu, il y a l'espérance, qui fait le lien entre ce en quoi je crois et ce à quoi je suis appelé. Et c'est quand j'ai la foi et l'amour que ma vie n'est qu'espérance. Et ça, c'est pour le plus grand bien que nous puissions avoir pour nous-mêmes et pour le monde. Amen.